série, bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un cereal lover
ou un cereal eaters.
Bonjour les Sérivores, nous allons aujourd'hui vous parler dans ce Sérivore numéro 108 de la série arabesque Murder, She Wrote, donc une série culte policière américaine créée par Peter S. Fincher avec une héroïne féminine donc à noter, puisque dans cet univers, bon, maintenant c'est courant d'avoir des femmes qui ont des rôles importants, et tant mieux, mais là c'était une petite série policière bien sympa, et Agatha Christie, et le succès d'Agatha Christie a fait que cette série a bien marché, et on verra pourquoi dans les anecdotes. Tu peux nous donner les années de cette série, Vincent ?
Alors oui, je peux tout à la fin.
Il peut le faire.
Je peux le faire. Du coup, la date de la série, elle a commencé en 84 et elle a fini en 96. Donc quand même une série qui a été assez longue.
Tu peux nous donner le genre ?
C'était, du coup, comme tu as pu le préciser déjà un petit peu, c'est une série qu'on peut qualifier comme policière.
Et puis, oui, comme tu l'as dit, une série qui est quand même assez longue.
Oui, c'est... La série est composée quand même de 12 saisons, à peu près une par an, soit 263 épisodes de 50 minutes, et un pilote de 90 minutes, et 4 téléfilms de 90 minutes.
Oui, donc assez conséquent. Alors, rapidement, le petit synopsis. Alors, cette série nous raconte comment la veuve de Frank Fletcher, Jessica Beatrice Fletcher, exactement, née McGill, qui est une ancienne professeure d'anglais devenue auteur de romans policiers, utilise ses dons d'observation et son sens de la logique pour jouer les détectives amateurs et résoudre des affaires criminelles. Elle officie dans une petite ville disons, balnéaire, qui s'appelle Cabot Cove, dans le Maine où souvent les romans de Stephen King se passent, hein, pour vous donner un peu l'idée. Et dans cette petite ville, elle y est bien, elle fait ses petits romans et tout ça. Et elle va aussi à travers les États-Unis et le monde qu'elle parcourt pour assurer la promotion, bien sûr, de ses romans et pour rencontrer sa famille et ses proches. Jessica Fletcher n'a pas d'enfant, mais elle se balade un petit peu au sein d'une immense famille que l'on découvre au fur et à mesure des épisodes, des neveux, des nièces en particulier. Donc... on va les retrouver au milieu de ces enquêtes. Et on apprend au fil des épisodes que depuis qu'elle mène ces enquêtes, elle est fichée au FBI, à la CIA et au KGB, hein, rien que ça, et pour s'être mêlée à plusieurs reprises de certaines de leurs affaires qu'elle a pourtant aidé à résoudre. Mais bon, on sait que ces organismes n'aiment pas trop qu'on fouille un petit peu sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils enquêtent. Et donc, c'est assez marrant. Eh bien, tu vas nous passer le fameux générique de la série.
Thank you.
Alors, les héros principaux et les acteurs qui les interprètent, eh bien, on retrouve dans le rôle titre Angela Lansbury, qui joue le rôle de Jessica B. Fletcher, et c'est Paula Deheli qui fait la voix française. Hein. Bon, de temps en temps, on le cite un peu. Tom Bosley va jouer, lui, le shérif Amos Tupper, hein, le shérif du petit village, de 84 à 88. On retrouve Michael Horton qui joue Grady Fletcher, William Whedon qui joue le docteur du coin, le docteur Seth Hazlett, et ça de 85 à 96. Len Cariou qui va jouer Michael Haggerty, l'ami de Jessica qui est aussi agent secret anglais du MI6. Richard Paul qui joue Sam Booth, aussi qui va l'aider dans ses enquêtes. Ron Massal qui joue le second shérif, le shérif Mortimer Metzger. On trouve ensuite James Loyan qui joue Roger Butler. Ken Sofort qui joue le lieutenant Perry Catalano. Keith Mitchell qui joue Dennis Stanton, qui est aussi un ami de Jessica, qui lui a une particularité, ben c'est un voleur repenti qui résout des affaires de vol ou de meurtre pour les services d'une compagnie d'assurance. Dans les épisodes où il apparaît, Jessica Fletcher est rarement présente. Donc c'est un peu une guest star et qui permet de la remplacer. Et c'est d'ailleurs assez marrant, vu son passé sulfureux, de le retrouver un petit peu du bon côté. Mais bon, c'est aussi une façon de donner un petit peu de bonne morale et c'est assez rigolo. Alors, les anecdotes autour de la série. Alors, les auteurs de la série ont créé le personnage de Jessica Fletcher en se référant à l'univers d'Agatha Christie et en particulier à la super-héroïne qui est Miss Marple. Je pense que tu as entendu parler de Miss Marple.
Oui, je connais au moins le nom. Je n'ai jamais vu, mais je connais le nom. Et donc, les épisodes d'Arabesque ont quasiment toute la même structure. Au départ, un crime est commis. Plusieurs suspects sont possibles. L'héroïne soupçonne alternativement plusieurs d'entre eux, les uns à la suite des autres. Puis vient le moment où la police arrête l'un des accusés, souvent le mauvais. Jessica Fletcher remonte alors la piste pour prouver son innocence. Vient le moment où elle découvre la vérité. Elle raconte et revient sur les faits. Le meurtrier est mis sous les verrous. Des épisodes ne répondent toutefois pas à cette mécanique bien huilée.
Voilà, donc c'est un petit peu, oui, à la Agatha Christie, on reconnaît un peu ce style. Et contrairement à Columbo, où on connaît le coupable dès le début, bah là, c'est encore une autre façon de mener l'enquête. C'est pas tonitruant, mais voilà, il y a toujours des rebondissements. Ça nous emmène sur des fausses pistes, bien sûr, quand c'est bien fait. Le titre français Arabesque ne correspond en rien au titre original, hein, « Murder, She Wrote ». Ce titre est une référence au film « Murder, She Said », qui est l'adaptation du livre d'Agatha Christie, 4h50 from Paddington, que nous connaissons en français comme « Le train de 16h50 ». Donc, toujours ces références. Alors, Angela Lansbury est le co-créateur de la série, Peter S. Fincher, ben, il ne s'aimait pas du tout. Particulièrement, Lansbury était surmenée à demander à plusieurs reprises qu'on revoie son personnage. Elle était prête à quitter la série à la fin de la saison 5, mais elle a décidé à la dernière minute de rester, probablement sous la pression de CBS, qui avait vraiment besoin que le show cartonne et reste à l'antenne. Donc, financièrement, derrière, ils ont dû lâcher du lest. Et Fisher n'a pas apprécié du tout, puisqu'il a été obligé de réécrire tout le script. Il pensait que s'être débarrassé d'elle, et bien non. Alors, la fin du dernier épisode de la 7e saison avait deux versions écrites par Fisher avant de partir, une où Jessica acquiesce à Harry Magro, and that's all she wrote, et une où elle fait un clin d'œil au téléspectateur en disant qu'elle reviendra. Lansbury s'est vu promettre donc un poste de productrice exécutive après un an avec David Mossinger, qu'elle n'aimait pas non plus. Donc ça devait être un peu une casse-pied, on pourrait dire, pour être gentil.
Et dans plusieurs épisodes, Jessica apparaît brièvement au début d'un épisode pour le présenter et laisser la place à un autre personnage qui était souvent, du coup, Dennis Stanton, Keith Mitchell.
On en a parlé tout à l'heure. Le deuxième prénom de Jessica est Béatrice, une référence à la meilleure amie de Angela Lansbury, Béatrice Asher, actrice connue pour son rôle dans Les Craquantes, une autre série avec trois petites vieilles qui était assez, assez marrant. Le mari de Jessica s'appelait Frank, une autre référence à Béatrice, dont le nom de naissance est Bernie Frankel. Donc, il y a plein de petits clins d'œil.
Angela Lansbury a été la troisième personne à être choisie pour le rôle de Jessica Fletcher. Jane Stapleton s'est vue offrir le rôle, mais l'a refusé, tout comme Doris Day, célèbre actrice et chanteuse.
Ouais, Doris Day était vachement plus connue à l'époque. C'était une blonde platine et tout ça. Elle avait joué dans pas mal de films, où elle jouait un peu une fofolle. Mais finalement, Angela Lansbury a pris le rôle et puis bon, il lui colle vraiment, vraiment pas mal. Parce que Doris Day, ouais, elle jouait souvent des filles un petit peu fofolles. Et je ne sais pas si vraiment le public était habitué à l'avoir joué ce genre de rôle, passer à un rôle vraiment d'écrivaine différente. Je ne sais pas si ce qu'aurait pu donner. Alors, outre son rôle mythique dans Arabesque, Angela Lansbury a quand même joué dans de nombreux succès au cinéma, parmi eux le portrait de Dorian Gray, qui lui a valu en 1946 le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle quand même. On a pu la voir aussi dans les films Disney comme L'apprentie sorcière et Le retour de Mary Poppins, plus d'autres séries, d'autres apparitions. Mais bon, donc c'est quelqu'un qui a marqué le ciné et le petit écran.
Il existe même un crossover improbable entre Arabesque et Magnum. Jessica est en vacances à Hawaï et Higgins demande à Jessica d'aider Magnum accusé de meurtre.
Donc c'est assez marrant, oui, deux univers très différents. Un côté, le côté macho testostérone de Magnum avec des mecs. Et puis Jessica Fletcher, très britannique. Ça ne m'étonne pas que c'est Higgins, qui est le majordome anglais, qui l'a invité et qui est pote avec elle. Et donc, j'ai pas eu l'occasion de voir cet épisode, mais bon, en préparant cette émission, j'y tiens, ça serait sympa d'essayer de le trouver pour voir ce que ça donne. Alors, Jessica Fletcher a une particularité, elle n'a jamais conduit de voiture, principalement parce qu'elle n'a jamais passé son permis déjà, et ensuite elle prend toujours un taxi à Cabot Cove, sa ville, elle fait du vélo, et dans la campagne, elle trouvait toujours une bonne poire pour la conduire, donc voilà, bon, pourquoi s'embêter hein, quand on peut se faire véhiculer.
Et beaucoup de stars débutantes ont été vus dans Arabesque, dont Bryan Cranston, qui jouera plus tard dans Breaking Bad, Linda Hamilton, qui est Sarah Connor dans Les Terminators, George Clooney, qu'on évidemment on ne présente plus, un très jeune Joaquin Phoenix, pareil, dont on ne présente plus tous les films, et Courtney Cox, qui a un rôle dans Scream.
Exact, et puis dans de nombreuses séries, on l'a vu dans Les Misfits, dans tout un... Et en fait, voilà, bah, des gens qui ont déjà une belle petite carrière.
Mais un acteur est passé en super coup de vent dans le pilote, c'est Andy Garcia en petite frappe qui essaie de braquer Jessica Fletcher.
Donc on voit quand même qu'il y a eu des... Après, on a aussi des acteurs du petit écran. Melissa Sue Anderson qui joue la fille aînée dans La Petite Maison dans la Prairie. On a eu Dirk Benedict, celui qui joue le foufou dans L'Agence Touriste.
Je ne sais pas du tout.
Ah, je me rappelle plus. Enfin, celui qui joue le barjo, qui conduit les hélicoptères. Futé. Non, c'est l'autre. C'est Futé. Je confonds les deux. Dwight Jones qui joue l'autre. Et on a eu aussi, on l'a vu dans Galactica, Marisa Berenson, qu'on a pu découvrir dans Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Linda Blair, on l'a pu voir dans L'Exorciste. C'est la fameuse qui a la tête qui tourne, qui ne nous fait pas tourner la tête. Ernest Borgnine, ça dit peut-être quelque chose.
Oui, je ne sais plus dans quoi je l'ai vu, mais j'ai
Supercopter, le fameux Dominique, entre autres. Et puis, on l'a vu dans de nombreux films.
Oh, oui.
Neil Patrick Harris, I Met Your Mother, entre autres. Et puis, Starship Trooper, le scientifique, ben c'est lui. On peut voir aussi Lois Chile, qui a été dans Moonraker, une des James Bond Girls. James Coburn, Tippi Hedren, l'héroïne du film Des Oiseaux de Hitchcock. On trouve aussi Peter Graves et Greg Morris, deux des acteurs de Mission Impossible, la série télé. Billy Zane, le méchant de Titanic, il a déjà joué aussi, on a pu le voir ici, des acteurs qu'on retrouve dans pas mal de séries. On a pu voir aussi Eli Wallach, Ce coup-ci, ben, c'est lui qui jouait le truand, celui qui se fait toujours avoir. Bien, c'est le fameux Eli Wallach qu'on peut voir dans ce film. Hélène Travolta, la sœur de John Travolta, qui était aussi actrice. Robert Vaughan et David McCallum, qui ont joué dans Les Agents Très Spéciaux. Donc, on a pu voir David McCallum aussi dans L'Homme Invisible. Kevin Sorbo, qui jouait Hercule. Dans la série Hercule, on a eu Xena et Hercule, et Kevin Sorbo joue le rôle d'Hercule. On retrouve David Saul, ça te dit quelque chose peut-être ? Ben, c'est le Hutch de Starsky et Hutch. Ensuite, on a pu voir aussi Tom Selleck, puisqu'on nous a bien parlé de Magnum. Dick Sargent de Ma sorcière bien-aimée, on a pu le voir aussi. Patrick McNee de Chapeau melon et bottes de cuir. Roddy McDowall de La planète des singes, c'est marrant parce que dans le Cerebor précédent, on a vu qu'on retrouve pas mal d'acteurs qui étaient dans la quatrième dimension, qu'on retrouve aussi dans cette série. Patrick McGowan, qui a joué la série dont on avait parlé ici, Le Prisonnier, la série mythique. Pat Morita, qu'on peut voir dans la série des films Karate Kid, entre autres, et qu'on avait vu aussi dans la série Happy Day. Et puis Leslie Nielsen. Y a-t-il un pilote dans l'avion, en fait ?
Oui, c'est ce que j'allais dire, le nom n'est pas inconnu.
Voilà, tous les y a-t-il un flic ? Eh bien, bah, c'est Leslie Nielsen, qui d'ailleurs a une carrière sérieuse, puis dans Planète Interdite, un film de science-fiction avec Robin Robot, il a un rôle sérieux, cet acteur canadien, et petit à petit, il s'est orienté, bah, c'était les films parodiques, et vraiment, bah, on connaît le succès qu'il a eu et qu'il continue à avoir avec cette série. Et puis aussi Adrian Paul, qu'on a pu voir dans la série Highlander, entre autres.
Et le village de Cabot Cove, dans le Maine, est en fait un bras de mer dans la ville de Kennebunkport, également dans le Maine. Et la plupart des plans extérieurs ont été filmés à Mondocchio, en Californie. La maison victorienne utilisée pour être du coup l'extérieur de la maison de Jessica était un bed and breakfast. Le Blair House Inn est construit en 1888. Les propriétaires ont renommé une chambre VIP la suite Angela et une réplique du vélo de Jessica Fletcher a été installée dans le jardin. Et d'autres films ont été tournés à Mondocchio comme À l'Ouest d'Eden, Karate Kid 3 et Forever Young.
Ouais, c'est marrant de voir des endroits comme ça qui sont vraiment marquants et qu'on retrouve dans pas mal de films. Alors, Angela Lansbury a reçu une nomination au Emmy Award pour chaque saison de la série, quand même. Elle n'en a jamais gagné aucun, par contre.
C'est pas de chance.
Ouais, quand même, hein, en 12 saisons, 12 ratés. Enfin, ratés. Déjà, d'être nommé, c'est pas mal, parce qu'il y a quand même... c'est toujours restreint, il y a 5-6 nommés en général. Elle a en revanche eu, en plus d'une pelletée de nominations dans tous les sens, remporté trois Golden Globes, a été nominée 3 fois aux Oscars, donc une fois pour son rôle de Nancy dans le film Antis de 1944, et a reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2014. Donc, comme on disait, c'est vraiment une actrice reconnue.
Jessica Fletcher est même entrée dans le Guinness Book des records comme la détective amateur la plus prolifique. Miss Marple, même si elle a été à l'antenne plus longtemps, depuis 1956 quand même, mais pas en continu, n'a pas pu rivaliser.
Alors, le nom de jeune fille, de Jessica Fletcher est McGill, emprunté à la mère de Angela Lansbury, qui s'appelait McGill, donc c'est assez marrant. Il y a toujours ces petits clins d'œil.
Plusieurs personnages récurrents ont aidé Jessica dans ses enquêtes. Danny Stanton, les détectives privés Harry McGraw et Charlie Garrett, l'agent anglais Michael Haggerty et l'inspecteur du New York Police Department, Artie Gelbert.
Alors, le shérif Metzger parle beaucoup de sa femme Adèle, mais on ne l'a jamais vue, tout comme la femme de Columbo, même si on peut l'entendre au téléphone. Donc, c'est un petit clin d'œil à Columbo et c'est assez marrant.
Angela Lansbury a joué aux côtés de Heard Hatfield dans le film Le Portrait de Dorian Gray, sorti en 1945, pour lequel elle a reçu un Golden Globe. Et d'ailleurs, Heard Hatfield est apparu en guest 3 fois dans la série.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui sait faire tourner les copains aussi, c'est assez sympa. Alors, l'actrice ne s'est pas seulement glissée dans la peau de Jessica Fletcher, a eu l'occasion d'interpréter 2 rôles dans la même série. Angela Lansbury a d'ailleurs surpris les spectateurs les plus attentifs lorsqu'elle a joué les chanteuses dans un musical de Londres pour Arabesque. Elle est en effet apparue métamorphosée dans la peau de Amy McGill, la cousine de son personnage dans l'épisode 4 de la 6e saison intitulé « Un don héréditaire ». Donc c'est marrant ce petit clin d'œil de jouer deux rôles dans la même série.
Peter S. Fisher, qui est un des producteurs de la série, adorait l'actrice Doris Gray, Doris Day, et celle-ci fut approchée pour apparaître en guest dans un épisode pendant la saison en 1991-1992. Doris Day était intéressée et donna les termes de son contrat. Elle souhaitait que son fils soit crédité comme producteur et qu'il reçoive un salaire. Ça va, il n'y a pas à se fouler pour ce genre de métier. Et la production et la chaîne ont accepté le salaire de Doris Day, mais refusé la clause concernant son fils. Donc...
Oui, carrément, bah oui, on place quand même. Oui. Ça s'appelle de la corruption, c'est ça ?
Un petit peu.
Et, non, mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu à la mode. Ben, c'était des stars, donc ils exigeaient. Bon, on en a encore hein, des comme ça dans le milieu du showbiz. Il y a toujours des gens qui abusent, et malheureusement. Mais heureusement, là, les producteurs n'ont pas cédé. Quand l'acteur Tom Bosley a quitté la série, son absence a été expliquée par sa prise de retraite et son déménagement dans le Kentucky pour vivre près de sa famille. Hop, on fait disparaître facilement un acteur. Bon, Tom Bosley, on l'a pu le voir dans pas mal de séries après.
Et le port de Cabot Cove n'est pas un vrai port, mais une attraction des studios Universal, Joyride, directement du coup inspirée du film Les Dents de la Mer. Et l'attraction réplique le lieu imaginaire d'Amity Island, lieu d'action du film. Elle a été construite en 1976, un an après la sortie du long-métrage, et a servi de décor à de nombreuses productions, comme du coup Columbo, l'agence touriste ou encore K2000.
Et puis Arabesque, donc. Donc, on recycle. En fait, ils ont aménagé un petit coin bien sympa et qui est vraiment bon pour le cinéma. Et quand on voit, oui, Les Dents de la Mer, on regarde ces séries qu'on vient de citer, on dit « Ah bah tiens, oui, je connais cet endroit, je l'ai déjà vu. » Et en fait... normal, puisqu'il y a eu beaucoup de séries tournées ici. Donc, dans la saison 7, les audiences vont commencer à baisser. Angela Lansbury est devenue productrice exécutive, comme on a pu le voir. Elle avait un pouvoir décisionnaire sur pas mal de choses et a décidé de faire déménager Jessica à New York, de l'habiller plus fashion et de la faire côtoyer plus de jeunes. Donc, histoire de rameuter un autre public et puis de sauver sa série.
En 87, du coup, est sorti le spin-off La loi du privé avec Harry McGraw dans le rôle principal, joué par Jerry Orbach, le Lenny Briscoe de New York Police Judiciaire, qui était apparu quelques fois dans Arabesque. La série sympathique, on va pas se mentir, n'a duré qu'une seule saison.
Oui, donc, comme pas mal de spin-off, c'est dur de passer le cap des une saison. Hein. Souvent, les gens sont déroutés. Faut vraiment, vraiment, vraiment que ça amène quelque chose en plus.
Faut vraiment que ce soit solide.
Alors, le succès d'Arabesque a permis quand même la mise en chantier de la série dérivée, la loi du privé, hein, comme on l'a dit. Et lui, qui était basé sur le personnage d'Harry McGraw, et il a été diffusé qu'une saison, comme on vient de le dire, et seulement de 87 et 86. Et elle s'est arrêtée au bout d'une saison, mais surtout de 16 épisodes, ce qui n'est pas énorme.
Et Arabesque a même eu une petite adaptation en jeu vidéo en 2009 sur Windows et iOS.
Alors bien sûr aussi, des romans ont été rédigés par Donald Blaine avec un clin d'œil à Jessica Blay Fletcher. Son nom apparaît comme auteur sur la couverture, donc le petit clin d'œil, et ont été édités par les éditions Carnot. Donc on peut retrouver, si vous êtes fan, vous pouvez retrouver les aventures de Jessica Fletcher dans ses romans en complément. Eh bien, je crois, Vincent, que tu nous as préparé un petit extrait de la série.
Set Asleep, vous êtes un monument d'entêtement.
Dites-moi ce que vous voulez, comme d'habitude. Mais je n'ai pas l'intention d'y aller, Jessica.
Oh, mais c'est tout près d'ici. C'est dans le Maryland.
Je n'ai pas parlé à mon frère depuis 30 ans et il n'y a pas de raison pour que ça change. De plus, nous devons absolument revenir à Cabot Cove afin que vous puissiez voir l'agent à propos de votre terrain avant qu'il ne se rende à cette fameuse réunion de famille à Moscou, dans l'Idaho.
Mais nous avons largement le temps pour ça.
Écoutez... Nous sommes venus ici pour voir notre parlementaire, c'est fait. Alors j'espère prendre le prochain avion. C'est compris.
Même si votre frère vous apporte une branche d'olivier, Seth?
Le fait d'être invité à un match de polo ne signifie pas que Richard veuille arrondir les angles.
Mais pourquoi vous aurait-il envoyé une invitation? Honnêtement, c'est votre seule famille. Et quoi qu'il ait pu se passer entre vous, il n'y a aucune raison pour que cela s'éternise.
Très bien. On y va. C'est d'accord. À une condition. Vous venez avec moi.
Oh, non!
C'était votre idée. Alors, si c'est non, je n'irai pas. C'est aussi simple que ça.
Oh, très bien.
Le plus et les originalités de la série, bah, j'ai mis une héroïne féminine qui mène la baraque, c'est le moment de le dire, qui, sous ses airs de romancière, embête, comme on a pu le voir, la police locale, le FBI, le KGB, voilà, donc, par son côté privé, et puis de petite dame tranquille, en fait, bah, elle est beaucoup plus efficace que ses grosses machines. Et moi, j'ai bien aimé ce petit clin d'œil. J'ai mis une ambiance à la Agatha Christie. Donc, pour les fans d'Agatha Christie, bah, vous pouvez voir cette série. C'est pas violent. Bon, il y a des meurtres, mais c'est pas, on voit pas, c'est pas très sanguinolent. Donc, ça peut se voir pratiquement en famille. Les mois de la série, bah, j'ai mis le côté répétitif du mode d'enquête. Ça peut, un peu comme Columbo, au bout d'un moment, le rythme lent, parce que c'est pas, il y a pas de course-poursuite fracassante, donc si c'est plutôt tranquille. Bon, c'est pas Derrick quand même, ou des séries vraiment soporifiques, parce qu'il y a le côté intrigue qui est quand même un peu plus recherché. Mais bon, voilà, c'est une série tranquille. Si vous avez aimé, eh bien, bah, les quatre téléfilms d'Arabesque, j'ai mis Miss Marple, la série télévisée de 2004, Le train de 16h50, réalisé par George Pollock en 62, en 63, Meurtre au galop, donc réalisé encore par Pollock, et ça c'est d'après les indiscrétions de Hercule Poirot, donc Lady Détective entre en scène, réalisé aussi par Pollock, qui est de 1964, et en 64 aussi Passage à tabac, que toujours réalise Pollock sur un scénario, lui, original. La série des Columbo, puisqu'on est un petit peu dans le même style. En 80, Le miroir se brisa, réalisé par Guy Hamilton, où Angela Lansbury joue Miss Marple. Donc ça vous permet aussi, puis bien sûr, toutes les apparitions où on voit avec les films d'Agatha Christie, si vous aimez ce genre, les Hercule Poirot et compagnie. Donc, vous avez de quoi faire. Déjà, si vous avez envie de revoir la série entière, vous avez de quoi faire avec les 12 saisons. Eh bien, passons au coup de cœur Sérivore. Alors, le coup de cœur Sérivore, c'est Jacou le croquant. Beaucoup de gens connaissent le film qui a été tourné avec le regretté Gaspard Ulliel. Et là, c'est la série qui était à l'origine du film. Alors, Jacou le croquant, c'était une mini-série française de 69, en 6 épisodes de 90 minutes et un de 120 minutes, qui est réalisé par quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour la télé française, qui s'appelle Stelio Lorenzi, et d'après le roman d'Eugène Leroy. Donc, c'est en 1919, dans le Périgord, Jacou Ferral est un garçon de 8 ans. Son père, Martin Ferral, dit Martissou, est un métayer du comte de Nansac, ancien soldat de Napoléon, qui exploite son personnel tout en récitant au château de Lerme. Et un jour, bah, Nansac fait condamner Martissou à tort pour le meurtre du régisseur, de son propre régisseur, Laborie. Le pauvre métayer va être condamné aux travaux forcés et mourir peu après, hein, parce qu'à l'époque, le bagne, bah, c'était pratiquement signe. C'était soit on mourait ou on revenait pratiquement jamais. Ensuite, eh bien, Jacou va rester un temps seul avec sa mère, qui finit elle aussi par mourir, parce que en fait, elle est expulsée de chez elle et ils sont obligés de vivre dans la forêt. C'est vraiment très dramatique. On suit un peu la même trame du film, pour ceux qui l'ont vu. Orphelin, à la suite du décès de sa mère, eh bien, il va être recueilli par un curé qui s'appelle le curé Bonal, qui va s'occuper de son éducation et devenu adulte. Jacou, il va vouloir combattre l'injustice dont sa famille a été victime et il va rêver de se venger. Et les circonstances vont l'amener vite à devenir le principal meneur d'une révolte paysanne contre le comte de Nansac. Et il va s'y transformer son désir de vengeance en un combat contre l'injustice et prouver qu'un simple paysan n'est pas dénué de grandeur et ils vont pouvoir réussir un petit peu à mettre à bas cette noblesse arrogante. Et on est un petit peu dans l'ambiance de la Révolution française. Et de temps en temps, c'est bien de montrer aussi que les gens ne doivent pas subir, et qu'à un moment, il faut se révolter. Je ne sais pas si tu avais eu vent de cette série ou tu as connu que le film.
J'ai connu de loin que le film, parce que je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre. Mais pour moi, c'est d'abord le film avant d'être une série.
Oui, puis en plus, ça s'est passé beaucoup grâce à la musique. C'était Mylène Farmer qui avait fait le film. La musique du film, donc ça s'est passé beaucoup sur les radios. Mais bon, la série, c'est, quand je l'ai vue, j'étais gamin, ça m'avait vraiment marqué parce que c'était le fait de voir l'injustice et comment les gens pouvaient vraiment être exploités à cette époque-là et qu'il y avait une élite qui était vraiment crasseuse. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Les paysans étaient peut-être sales, mais les plus sales, c'était ceux qui étaient au pouvoir à l'époque et qui laissaient faire des choses comme ça assez horribles. Donc, c'est bien de regarder de temps en temps, de voir aussi l'histoire, de voir qu'il ne faut pas retomber dans les mêmes travers de temps en temps. Surtout spécialement en ce moment, c'est bien de regarder des choses comme ça. Eh bien, merci Vincent pour ton aide à cette émission, aussi bien la technique que pour les petits commentaires. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouveau Sérivore. Bye bye.
Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil jusqu'à la prochaine émission.
Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un céréal lover
ou un céréal eaters.